Radioactive, la web radio du Collège Sport Nature.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radioactive, la web radio du Collège Sport Nature de la Canoë. Nous sommes des élèves de 3e A et nous allons vous présenter une émission sur les sciences. Je suis donc en compagnie de Jasmine qui va accompagner tout au long de cette émission.
Bonjour Fantine.
Pourrait-on parler du programme ?
Oui, bien sûr. Avec au sommaire la déconstruction de fausses infos par les scientifiques.
Puis un portrait d'une des plus grandes chercheuses françaises, Marie Curie.
Ensuite, nous nous intéresserons aux atomes ainsi qu'aux ions.
Un portrait d'Antoine Lavoisier suivra pour la suite de l'émission.
Et pour terminer, un sujet d'actualité, nous allons vous parler du pétrole et de son impact sur la biodiversité marine.
Mais commençons tout d'abord par parler du pH, un sujet que nous voyons souvent au collège, mais qui n'est pas compris par tous les élèves. Pour vous aider à y voir plus clair, nous accueillons Noémie et Elina.
Bonjour les filles.
Salut tout le monde.
Alors Noémie, c'est quoi le pH? Et surtout, qui l'a inventé?
Bonne question. Le pH, c'est une échelle qui permet de mesurer l'acidité d'une substance. En gros, on regarde si un liquide est acide, neutre ou basique. Cette échelle va de 0 à 14. Si le pH est inférieur à 7, c'est acide, c'est plus que 7, c'est basique, et si c'est 7, c'est neutre, comme l'eau pure. Et c'est un scientifique danois qui a inventé cette échelle en 1909, il y a donc plus de 100 ans.
Ah ouais, ça remonte. Mais comment on mesure le pH alors? Parce que j'imagine qu'on n'a pas un petit indicateur pour savoir si un jus de citron est acide ou si de l'eau est basique.
Exactement. Pour mesurer le pH, on utilise soit du papier pH, soit des indicateurs chimiques comme des solutions ou des colorants. Par exemple, tu connais l'expérience avec le chou rouge? C'est super simple et ça montre bien comment l'acidité modifie la couleur.
Le chou rouge, vraiment? Comment ça fonctionne?
Oui, c'est super cool, le chou rouge contient un pigment de couleur. Si tu fais chauffer de l'eau avec du chou rouge, tu vas obtenir une solution violette. Mais si tu ajoutes une substance acide, comme du vinaigre, la couleur devient rouge. Et si tu ajoutes une base comme du bicarbonate de soude, la couleur devient bleue ou même verte. Ça marche parce que le chou change de couleur selon le pH du liquide.
C'est carrément magique! Et du coup, comment on peut savoir si une substance est acide ou basique avec ça?
En fait, c'est simple. Plus le liquide est acide, plus le chou devient rouge. Plus il est basique, plus il devient bleu ou vert. Et si la couleur ne change pas beaucoup, c'est plutôt neutre comme l'eau. C'est une manière facile de visualiser le pH.
Trop cool! Merci Noémie. Maintenant, je vais pouvoir impressionner mes amis avec mon chou rouge. Et vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à tester ça à la maison. Vous verrez, c'est un super moyen pour comprendre le pH en action.
Merci à toi, Ilna, et à bientôt pour une nouvelle chronique scientifique!
À bientôt tout le monde!
Nous allons vous parler d'astrophysique, et plus précisément de son lien avec une célèbre rumeur, celle de la fin du monde en décembre 2012. Pour commencer, Jasmine, qu'est-ce que l'astrophysique ?
L'astrophysique est une branche de l'astronomie. L'astronomie, c'est la science qui étudie les astres, c'est-à-dire les objets dans l'espace.
Et justement, que veut dire le mot astre ?
Un astre est un objet céleste, comme une étoile par exemple. Le Soleil est une étoile, mais il en existe beaucoup d'autres, comme Sirius, qui est une étoile très brillante dans le ciel.
D'accord. Et maintenant, peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé en décembre 2012 ?
Bien sûr. Peut-être as-tu déjà entendu parler de la rumeur annonçant la fin du monde le 21 décembre 2012 ?
Non, personnellement, ça ne me dit rien.
Eh bien, il y a quelques années, une rumeur s'est répandue disant que la fin du monde aurait lieu ce jour-là. Personne ne savait exactement comment cela pourrait arriver, mais plusieurs théories ont circulé.
Lesquelles, par exemple ?
La première concerne le calendrier Maya. C'était une civilisation d'Amérique centrale comme les Incas ou les Aztèques. Leur calendrier fonctionnait par cycles et l'un de ces cycles, qui durait 5125 ans, se terminait le 21 décembre 2012.
Et certains ont pensé que cela voulait dire la fin du monde ?
Exactement. Dans les années 1980, un historien de l'art nommé José Argel a beaucoup diffusé cette idée. Il a mélangé la fin du cycle du calendrier Maya avec un phénomène appelé l'alignement galactique de la Voie lactée. Mais ces théories n'avaient aucune base scientifique. Les astrophysiciens ont confirmé qu'aucun phénomène astronomique particulier ne devait se produire en 2012.
Et il y avait aussi une histoire de planète mystérieuse, non ?
Oui, la fameuse planète Nibiru. Certaines rumeurs affirmaient qu'une planète errante, ou même une naine brune, se dirigeait vers la Terre pour la détruire.
Ça fait un peu film de science-fiction, non ?
C'est vrai, mais les astrophysiciens ont rapidement expliqué que si un objet aussi massif entrait dans le système solaire, on l'aurait observé depuis des années avec les télescopes.
Et il y avait aussi une théorie sur les pôles magnétiques de la Terre, non ?
Oui, certaines personnes pensaient que les champs magnétiques terrestres allaient s'inverser brutalement. Mais les scientifiques savent que ces inversions existent et surtout qu'elles prennent des milliers d'années. Donc elles ne peuvent pas provoquer soudainement la fin du monde.
Et le soleil dans tout ça ?
Certains imaginaient aussi une gigantesque éruption solaire. C'est vrai que le soleil connaît des périodes d'activité plus fortes tous les 11 ans. Mais le cycle autour de 2012 était même moins intense que prévu.
Donc finalement, pas de catastrophe ?
Non, aucune. Les scientifiques avaient déjà expliqué que ces rumeurs n'étaient pas fondées.
Conclusion, il n'y a pas eu de fin du monde. Et la preuve, c'est que nous sommes toujours là pour en parler.
Exactement.
Merci Jasmine pour ces explications.
Passons ensuite au portrait de Marie Curie avec Chiara et Emmanuel.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre chronique Marie Curie, la scientifique dont les découvertes ont fait exploser la science. Nous allons parler de cette femme exceptionnelle qui a révolutionné la science. Savez-vous qu'elle est la première personne à avoir reçu deux prix Nobel dans deux sciences différentes, la physique et la chimie? Pour cette chronique, nous sommes allés interroger la célèbre scientifique. Bonjour Marie Curie, je me présente. Je suis Emmanuelle, une élève de 3e. Acceptez-vous de répondre à quelques questions?
Bonjour Emmanuelle, oui, avec plaisir.
Pour commencer, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs?
Bien sûr, je m'appelle Marie Curie, mais mon nom de jeune fille est Slodowska. Je suis née en 1867 en Pologne. Je suis scientifique spécialisée en physique et en chimie et j'ai consacré ma vie à la recherche.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir scientifique?
Depuis mon enfance, j'ai toujours été très curieuse. J'aimais apprendre et comprendre comment fonctionne le monde. Pour moi, la science est un moyen de découvrir de nouvelles choses et de faire avancer les connaissances.
Vous avez fait des découvertes très importantes. Pouvez-vous nous en parler?
Laissez-moi vous éclairer. Vous avez sûrement entendu parler de la radioactivité et des rayons X. Avec mon mari, Pierre Curie, nous avons étudié un minerai appelé le Pachelbel, qui contient de l'uranium. En analysant ces rayonnements, nous avons découvert deux nouveaux éléments chimiques, le polonium et le radium. Le polonium a été nommé ainsi en hommage à mon pays natal, la Pologne.
C'est incroyable, et ces découvertes ont permis de mieux comprendre la radioactivité, n'est-ce pas ?
Exactement, la radioactivité est un phénomène naturel. Certains atomes libèrent de l'énergie sous forme de rayonnement. À mon époque, ce phénomène était encore très mystérieux.
Quel impact vos découvertes ont-elles eu sur la science et sur la société ?
Cela a été un véritable bouleversement. Les scientifiques ont commencé à comprendre que la matière n'était pas aussi stable qu'on le pensait. Et surtout, ces recherches ont permis des progrès importants en médecine.
Par exemple, aujourd'hui, on utilise la radiothérapie pour traiter certaines maladies comme le cancer. C'est donc grâce à vos travaux que la médecine a fait un grand progrès.
Oui, j'en suis très heureuse. La science peut vraiment aider à améliorer la vie des gens.
Vous avez aussi reçu de récompenses très prestigieuses.
En effet, j'ai reçu le prix Nobel de physique en 1903 et le prix Nobel de chimie en 1911.
C'est impressionnant, mais à votre époque, ce n'était pas facile d'être une femme scientifique.
C'est vrai, les femmes avaient peu de place dans le monde scientifique. Cela a été un défi, mais ma passion pour la science m'a toujours encouragée à continuer.
Avant de terminer cette interview, avez-vous un message pour les jeunes qui nous écoutent ?
Je voudrais dire à tous les jeunes de rester curieux, de croire en leurs capacités et de ne jamais abandonner leurs rêves. La science est une aventure incroyable qui peut changer le monde.
Merci beaucoup Marie Curie pour ces paroles inspirantes. On peut dire que grâce à vous, à vos découvertes, vous avez marqué l'histoire et vous continuez d'inspirer beaucoup de personnes aujourd'hui.
Fantine, tu savais que tout est fait d'atomes, même ton cahier ?
Oui, et bien plus encore. Intéressons-nous au sujet avec Aaron, Kali et Julia.
Attention, information qui peut surprendre, vous, moi, cette table, ce micro, tout ce qui nous entoure est constitué d'éléments invisibles à l'œil nu, leur nom, les atomes.
Attends, même nous ?
Oui Aaron, toi, moi, absolument tout est fait d'atomes. Un atome, c'est la plus petite unité de la matière, la brique de base qui compose tout ce qui existe.
Et pourtant, on ne les voit jamais.
Normal, ils sont extrêmement petits. À l'intérieur d'un atome, on trouve un noyau très dense, composé de protons et de neutrons, et autour des électrons qui se déplacent à très grande vitesse.
Les électrons, ils tournent comme des planètes autour du Soleil ?
Pas vraiment. Ils occupent des zones appelées couches électroniques. On ne sait pas exactement où ils sont, mais on sait où ils peuvent se trouver.
Et les protons, à quoi servent-ils ?
Les protons ont une charge positive et déterminent l'élément chimique. Leur nombre, c'est la carte d'identité de l'atome.
Et les neutrons ?
Ils stabilisent le noyau. Sans eux, l'atome serait instable.
Les électrons, eux, permettent aux atomes de se lier entre eux pour former les molécules. Sans les électrons, pas d'eau, pas d'air, pas de vie.
Dernière question, un atome c'est surtout vide, non ?
Exactement. Si un atome avait la taille d'un stade, son noyau ne serait qu'un dragibus au centre, tout le reste serait vide.
Comme quoi, on est presque tous faits de rien.
des protons, des neutrons, des électrons et beaucoup de vide. Voilà la structure de l'atome, la base invisible de notre monde.
Merci beaucoup pour ces informations et à bientôt.
Oui, à bientôt.
Des protons, des neutrons, des électrons, mais aussi des ions. Alla, Maëlys et Constance ont bien suivi les cours et vont nous en parler immédiatement.
Bonjour, je me présente moi. Je suis Alla, je suis avec Constance et Maëlys. Nous allons vous parler des ions, une notion vue en cours de chimie. Bonjour Maëlys et Constance, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'un ion ?
Bonjour, un ion est un atome ou groupe d'atomes qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Il est donc électriquement neutre.
C'est un peu compliqué, tu peux me donner un exemple ?
Oui, je peux. L'ion fluorure F- a gagné un électron car il est chargé négativement.
Mais qui a commencé à en parler ?
C'est le physicien anglais Michel Faraday qui a commencé à en parler.
Quand c'est que Monsieur Faraday a-t-il commencé à en parler ?
Monsieur Faraday a commencé à en parler en 1933, 11 ans avant que l'Académie des sciences ne l'enregistre dans la langue française.
Merci Constance, mais comment nous pouvons les détecter ?
Nous pouvons les détecter grâce à des réactifs, l'hydroxyde de sodium et du nitrate d'argent.
Et si le test est négatif ?
Aucun précipité ne se forme.
Est-ce que tout le monde peut les détecter ?
Oui, tout le monde peut les détecter, les ions, à condition qu'ils aient les bons réactifs, c'est-à-dire de l'hydroxyde de sodium ou du nitrate d'argent.
Comment ils se forment ?
Un ion se forme à partir d'une espèce chimique qui, après un phénomène chimique, une réaction, ou un phénomène physique, un frottement mécanique ou un rayonnement, perd ou gagne un ou plusieurs électrons.
Ah oui, c'est très intéressant. J'ai appris plein de nouvelles choses. Merci les filles et merci de nous avoir écoutés. En espérant, vous avons appris de nouvelles choses.
Il y a eu une erreur sur la chronique. Les ions sont électriquement chargés et pas neutres.
Après Marie Curie tout à l'heure, maintenant, intéressons-nous à un autre grand scientifique français, Antoine Lavoisier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre chronique radio. Aujourd'hui, on va vous parler d'un grand scientifique français, Antoine Lavoisier. Salut Maëlys !
Salut Alizé ! Dis-nous, qui était exactement Antoine Lavoisier ?
Lavoisier est né en 1743, à Paris, et il est mort en 1794 pendant la Révolution française. C'était un chimiste, mais aussi un philosophe et économiste. Aujourd'hui, on le surnomme souvent le père de la chimie moderne.
Ah oui, mais pourquoi est-il si important ?
Parce qu'il a changé la manière de comprendre la chimie. Avant lui, les scientifiques avaient parfois des idées un peu magiques sur les transformations de la matière. Lavoisier, lui, a montré que tout suit des règles précises.
Et il a fait des découvertes importantes ?
Oui, sa découverte la plus célèbre est la loi de la conservation de la masse. Elle dit simplement que la matière ne disparaît pas et n'apparaît pas comme par magie. Elle se transforme seulement.
Donc si quelque chose brûle, ça ne disparaît pas ?
Exactement, la matière change de forme, mais la masse totale reste la même. Aujourd'hui, ça paraît évident, mais au XVIIIe siècle, c'était révolutionnaire.
J'ai entendu dire qu'il avait fait des expériences célèbres. Peux-tu nous en parler ?
Bien sûr. La première expérience concerne le mercure. Lavoisier a chauffé du mercure dans un récipient fermé. Le mercure s'est transformé en une poudre rouge appelée oxyde de mercure.
Et qu'est-ce qu'il a découvert grâce à ça ?
Il a mesuré la masse avant et après l'expérience. Et surprise, elle était la même. Cela a confirmé sa fameuse loi. Pas de perte de matière.
Très scientifique, mais aussi très précis.
Lavoisier adorait mesurer et peser, un peu comme un cuisinier, mais avec des expériences.
Et l'expérience du moineau ?
Celle-là est assez étonnante. Lavoisier a placé un moineau dans un bocal rempli d'air. Au bout d'un moment, le moineau est mort.
Pauvre moineau.
Oui, mais cette expérience lui a permis de comprendre que l'air contient des éléments indispensables à la respiration, notamment l'oxygène.
Donc grâce à lui, on comprend mieux comment on respire.
Parfaitement. Ses travaux ont beaucoup aidé à comprendre le rôle de l'oxygène dans la vie et dans les réactions chimiques.
Impressionnant. Mais il a aussi eu une fin tragique, non ?
Oui. Pendant la Révolution française, il a été arrêté et exécuté en 1794.
Une fin très triste pour un scientifique aussi important.
Heureusement, ses découvertes sont toujours étudiées aujourd'hui.
Et son travail continue d'influencer la science moderne.
Merci à Lisée pour toutes ces explications.
Merci Maëlys et merci à vous de nous avoir écoutés. À bientôt.
Jasmine, tu trouves pas que tuer des animaux pour la science, c'est triste ?
Oui, et imagine si c'est à cause de fuites de pétroliers qui se déversent dans l'océan. Pour nous parler de ce sujet, laissons tout de suite la parole à Serena et Nolan.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous allons parler du pétrole et de son impact sur la biodiversité marine. Pour en discuter, je suis avec Nolan, chercheur sur l'environnement marin. Bonjour Nolan.
Bonjour Serena.
Et bonjour à tous.
Pour commencer, Nolan, peux-tu nous expliquer simplement ce qu'est le pétrole ?
Oui, bien sûr. Le pétrole est un liquide naturel, une sorte d'huile minérale composée surtout d'hydrocarbures. Il s'est formé il y a des millions d'années à partir de restes de végétaux, de bactéries et de petits animaux qui sont accumulés au fond des océans ou des lacs.
Et comment a-t-on commencé à l'utiliser ?
Le premier forage de pétrole a été réalisé le 27 août 1859 par un Américain nommé Edwin Drake en Pennsylvanie. Depuis, le pétrole est devenu très important, surtout pour produire des carburants pour les voitures, des camions ou des avions. On l'utilise aussi pour fabriquer des plastiques, des peintures ou des cosmétiques.
Mais le pétrole peut aussi poser des gros problèmes pour l'environnement, surtout en mer, n'est-ce pas ?
Oui, malheureusement. Lorsqu'il y a des fuites ou des accidents de pétroliers, le pétrole répand dans l'océan. Cela peut tuer des poissons, des mammifères marins ou même des oiseaux. Le pétrole colle aux plumes des oiseaux et à la peau des animaux, ce qui les empêche de se protéger du froid ou de se déplacer.
As-tu un exemple de catastrophe liée au pétrole ?
Oui, en 1978, le pétrolier Amoco Cadiz s'est échoué au large de la Bretagne. Environ 2027 000 tonnes de pétrole se sont déversées dans la mer. Cette marée noire a gravement pollué les côtes et détruit une grande partie de la faune et de la flore marine.
Le pétrole pose donc aussi d'autres problèmes ?
Oui, le pétrole est une énergie non renouvelable, ce qui veut dire que ses réserves sont limitées. En plus, lorsque l'on brûle du pétrole pour produire de l'énergie, il libère des gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique.
Merci Nolan pour toutes ces explications. On comprend donc que même si le pétrole est très utilisé dans notre quotidien, il peut avoir de graves conséquences sur la biodiversité marine.
Exactement. C'est pour cela qu'il est important de développer des énergies plus propres et de mieux protéger les océans.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris des choses grâce à notre émission. On vous retrouve bientôt sur Radioactive.
Radioactive, la web radio du Collège Sport Nature.